17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce jeudi 24 novembre 2022 au micro Nefissa Adam Sirfo. Au sommaire, ce 24 novembre, cela fait 2 ans que disparaissait l'ancien président de la République, Tanja Mahamadou. À cette occasion, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR, lui a rendu hommage à travers une déclaration ce matin à Niamey. Dans ce journal, nous parlerons des centres de regroupement de la région de Tillabéri, créés pour permettre aux enfants de réintégrer l'école et poursuivre leur scolarité. Le magazine de ce jour nous édifie sur le processus de production des pavés à partir des déchets plastiques à Niamey. Bonsoir à tous et bienvenue à l'occasion du 2e anniversaire de la disparition ce 24 novembre de l'ancien président de la République, Tanja Mahamadou. Le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR, a rendu public ce matin une déclaration à Niamey. Suivons un extrait de cette déclaration lue par Nuhu Mahamadou Arzika, président du MPCR.
Le MPCR rend un hommage citoyen et patriotique amplement mérité à ce digne fils du pays qui avait porté haut l'étendard de l'éthique et du sens de la responsabilité dans la gestion des affaires de l'État en démocratie citoyenne, respectueuse des aspirations profondes et dynamiques du peuple souverain. Exprime son témoignage d'estime à feu son Excellence Tanja Mahamadou pour son courage politique, son sens élevé de l'État et de l'intérêt général, son sens de l'écoute et le don de soi pour la patrie, et exige le départ sans condition de toutes les forces d'occupation. Enfin, lance un vibrant appel à l'endroit de tous les Nigériens pour un réarmement moral et une mobilisation générale tous azimuts pour la défense de la paix et de la justice sociale, ainsi que la défense de la souveraineté, de l'intégrité du territoire et de l'indépendance nationale.
Des propos recueillis par Maman Ada. En bref, la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue les 22 et 23 novembre à Accra au Ghana a pris note de l'engagement des partenaires à soutenir l'initiative d'Accra dans la lutte contre le terrorisme à travers la mobilisation des ressources pour rendre opérationnelle la Task Force conjointe multinationale. Les participants ont réfléchi sur les thèmes tels que la porosité des frontières, l'extrémisme violent, le terrorisme et la criminalité transnationale. Dans la région de Tillabéri, plus de 72 000 élèves du primaire et du secondaire, dont près de 35 000 filles, ne vont plus à l'école pour cause d'insécurité qui sévit depuis plusieurs années. Pour permettre aux enfants de réintégrer l'école et poursuivre leur scolarité, l'État du Niger et ses partenaires ont créé des centres de regroupement dans certaines localités, notamment dans le département de Wallam. Ali Seydou, vice-coordinateur du cadre permanent de concertation pour la paix, estime que le gouvernement doit sécuriser davantage. Il est au micro de Adam Dawaki.
Nous avons plus de 817 établissements fermés. Et peut-être pour pallier à la situation, effectivement, il y a ces écoles-là de regroupement qui ont été créées. À notre information, il y a eu 29 qui ont été créées. Sur les 29, seuls 3 ont fonctionné, et même partiellement. Pourquoi ces écoles-là ont fonctionné? Parce que tout simplement, les parents sont des déplacés. Et ces 3 centres de regroupement, c'est dans le département donc de Wallam. À la rencontre avec le ministre de l'Éducation, nous avons échangé et nous avons fait des propositions concrètes. Nous avons recommandé de sécuriser la population. Une fois que les populations sont sécurisées, le problème ne se poserait pas et pour les enseignants, et pour les parents, et pour les élèves. Bien sûr, on souhaite que les partenaires viennent en appoint pour soutenir l'État dans ce travail-là.
Désormais, la population du département de Gaya dispose d'un numéro vert pour saisir directement la police en cas d'urgence. Selon le directeur départemental de la police, cette démarche consiste à être plus proche de la population et assurer sa sécurité. Saleh Seni est au micro de Fadel Alou.
Ça rentre dans le cadre de notre mission régalienne qui est la protection des personnes et de leurs biens. Pour répondre favorablement donc à cette mission, il va falloir que la police ait un regard attentif envers la population. Donc c'est cela qui nous a poussé à chercher les voies et moyens nous permettant de rentrer en contact direct avec notre population pour que nous puissions répondre favorablement à leurs attentes. Et c'est ce qui nous a permis de mettre en place un dispositif, un numéro qui est là à la disposition de toute la population du département de Gaya. Quand ils ont des difficultés, ils peuvent directement appeler le 17 et automatiquement, ils auront donc la réponse de la police.
L'actualité en région, toujours le district sanitaire de Ayeru a bénéficié mardi d'un don de matériel de la part d'une ONG dénommée Aviation Sans Frontières. Les autorités départementales ont assisté à la remise du don. Docteur Maimouna Barkiré, responsable du district sanitaire de Ayeru, est au micro de Abdoulaye Amadou.
C'est du matériel qu'on n'a pas ici. Ça va nous aider dans notre travail. On espère que ça va continuer. Ces genres de donations-là vont continuer pour nous appuyer. On en a besoin. On en a vraiment besoin parce qu'il y en a parmi eux qu'on n'a pas, on n'a jamais reçu, comme les compléments alimentaires-là. Et d'autres dont on était en rupture et maintenant c'est arrivé, donc ça va nous servir. Les bienvenus.
Le maire de Matamey dans le département de Kanché, région de Zender, a relevé dans un communiqué que certains propriétaires terriens procèdent au lotissement des champs et au morcellement des espaces en violation de la loi. Face à ces actes, Abdoulkarim Issa a tenu à mettre en garde à tout contrevenant. Il est au micro de Habou Serki Saleh.
Il y a certains propriétaires de champs qui se permettent de morceler leur périmètre et les vendre. Cela est illégal par rapport au texte de l'urbanisme. C'est une pratique qui peut traduire la personne dans une situation de désagrément, car la question domaniale a une réglementation. Il y a des règles que la loi a définies sur le domanial. Donc, un propriétaire de champs n'a pas le droit, et ce réglementairement, à s'adonner à la vente de parcelles. Il va falloir que les gens se méfient. Et j'en appelle à la population d'observer la réglementation en vigueur dans ce domaine. Les textes sont là et que la loi va être appliquée. À bon entendeur, salut.
La suite de ce journal, dans le cadre de l'autonomisation des femmes à Mayaï, plusieurs adolescentes du département ont bénéficié de formations sur les activités génératrices de revenus. Ceci pour qu'elles arrivent à se prendre en charge économiquement, financièrement et échapper à la tentation. Mademoiselle Oumabdou, bénéficiaire de la formation, explique le profit tiré de sa nouvelle activité au micro de Issoufou Cheibou.
Nous avons appris la production de l'huile, du savon et de l'encens, mais nous sommes plus dans la production de l'huile puisque c'est la plus forte demande et qu'on écoule sur le marché plus facilement. Nous vendons notre production même en gros. Au grossiste, nous vendons à 600 francs le litre et si c'est en détail, le litre est vendu à 750 francs. Il y a la moitié qui est à 300 francs. Avant, je ne faisais aucune activité, mais là, Dieu merci. Quand je vends, je trouve de quoi satisfaire tous mes besoins dignement jusqu'à faire des cadeaux et de l'aumône.
Les autorités de Dosso ont tenu le 19 novembre une réunion qui a regroupé les associations d'éleveurs, les agriculteurs ainsi que les cadres de l'élevage et de l'agriculture. Il s'agissait d'une concertation pour la fixation d'un commun accord d'une date butoir du 23 décembre pour la libération des champs. Soumane Tahirou, deuxième adjoint au maire de Dosso, est au micro de Nana Hadiza Hassan.
L'objectif principal, effectivement, de cette rencontre était de statuer sur la date de libération des champs afin de parer aux éventuels litiges qui peuvent survenir. La date du 23 décembre était finalement retenue. L'Assemblée a essayé de nous éclairer par rapport à la place de la chefferie traditionnelle dans ces différents conflits fonciers. Actuellement, si nous avons des difficultés à contenir, n'est-ce pas, les animaux au niveau de nos entités, c'est parce qu'il y a eu vraiment une fuite de responsabilité quelque part dans l'attribution de ces aires de pâturage et les couloirs de passage. Ce qu'il faut retenir de cet atelier, c'était vraiment une école, un cadre qui nous a vraiment permis de cerner le vrai et le faux dans la gestion des conflits agriculteurs et éleveurs.
Pour terminer, le 19 novembre a été célébrée la journée de l'écrivaine africaine à Niamey. Une occasion pour les passionnés de la lecture d'encourager les femmes et les jeunes filles à lire et à exploiter le terrain de l'écriture, indique le responsable d'un club de lecture. Deux livres de deux auteurs femmes ont été présentés pendant cette rencontre. Écoutons Dan Abdou Idi Souleymane, président du club de lecture au micro de Ali Tajsir Ahmed.
Cette journée de l'écrivaine africaine, elle est couplée à la grande activité qui consacre le lancement du FESTAF, qui est le festival de l'art féminin. Et à travers ce festival, nous avons été sollicités afin d'apporter plus d'éclaircissement par rapport aux contributions des femmes, non seulement sur le plan socio-économique, mais aussi sur le plan socio-culturel. Et c'est dans ce sens-là que cette journée nous a été consacrée pour que nous puissions présenter un thème relatif à l'importance de la lecture. Nous avons également prévu de présenter deux œuvres de deux grandes écrivaines africaines, dont une nigérienne qui est Dr Adele Bari Fatoumata, et une deuxième œuvre, celle de Djeli Amadou Amal, intitulée Au cœur du Sahel. Et donc, c'est vraiment pour amener ces jeunes-là à s'intéresser davantage à la lecture et amener les jeunes filles qui seront présentes aujourd'hui à leur comprendre l'importance de s'adonner à la lecture.
À présent, le magazine de ce journal, à travers son volet environnement, le projet 3E financé par la coopération italienne, produit des pavés à partir des déchets plastiques à Niamey. Ces déchets sont collectés par des jeunes sur des dépotoirs, découvrant le début du processus de production de pavés dans ce reportage de Asman China.
Ce processus de production des pavés commence par la collecte des déchets plastiques à partir de différents points de Niamey. Cette collecte est suivie de tri au niveau d'une unité installée dans le 5e arrondissement communal. Amadou Soumana, le référent de l'ONG 3E, explique.
Nous avons des sites d'approvisionnement qui sont juste derrière la ville de Niamey, par exemple Koubia, nous avons Calais Plateau aussi, nous avons Espace. Nous avons plusieurs points où c'est des sites d'approvisionnement, il ne faut pas remplir les sacs. Tant que c'est du plastique, même les sacs dans lesquels on remplit les céréales, là, parfois ça rentre, il n'y a pas de problème. Seulement c'est les petits papiers qu'il faut éviter, les papiers aluminium. Genre la cigarette a un petit papier aluminium là, qu'il faut éviter, mais les emballages.
Non loin de cette unité de collecte de déchets plastiques se trouve une autre unité appelée unité de production de pellets. Ici, deux machines sont installées, l'une servant à broyer les branches d'arbres et l'autre à transformer la poudre de ces branches en pellets qui sont utilisés comme carburant pour fondre les matières et produire le pavé. Masouda Ousseni est la superviseuse de cette unité.
Après la procédure du broyeur, les poudres des tranches d'arbres sont renversées, mélangées avec un peu d'eau et transmises dans la machine qui sert à transformer les poudres des tranches d'arbres en pellets. Les tranches d'arbres que nous broyons, nous l'appelons de la cire. Donc une sac de 30 kg de cire fait un demi-sac de pellets. Donc deux sacs de 60 kg nous donnent une seule sac de pellets.
Une fois les déchets plastiques triés, ils sont acheminés, tout comme les pellets, par des tricycles au garage municipal de Niamey, où s'est fait la production des pavés.
Ici prend fin ce journal. Merci de votre attention, merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Ne quittez surtout pas nos programmes à se poursuivre. Tout de suite, les journaux en langue nationale. Et juste après, à partir de 18h15, vous pourrez suivre le forum de Studio Kalangu présenté en Hausa par Fatou Omarou. Il a pour thème perception de la scolarisation de la jeune fille par les parents à Dogon Douchi. Bonne écoute. Bonsoir grande sœur. Enfin, aujourd'hui je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafissa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends grande sœur, apparemment vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangu en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.